Merci Isabelle. Bon, je précise quand même que le prix de l'Académie est pour notre équipe, hein, dont fait partie Isabelle, dont font partie d'autres dans cette Assemblée. Ça n'est pas quelque chose qui m'est réservé à moi personnellement. Deuxième point, vous vous êtes peut-être étonné du titre un peu bizarre, hein, l'apparition des disciples en Jean chez les Pères latins, sauf Augustin. Hein. C'est quand même dommage de l'avoir exclu, mais ce que vous a expliqué ce matin Marie-Odile Boulnois en donne l'explication. Nous avons travaillé pendant 4 ans sur ces sujets et nous nous étions répartis les auteurs, les questions, etc. Et donc Isabelle s'occupait d'Augustin et moi des autres prédicateurs. Alors justement, les latins n'ont eu en main aucun commentaire de l'évangile de Jean avant les Tractatus in Ioannem d'Augustin, dont les derniers datent des années 419-420. Et ce que vient de nous dire Catherine à propos de Jean Chrysostome rencontre un certain parallèle dans le cas d'Augustin, parce que nous avons un certain nombre de commentaires longs sur certains passages, mais à la fin, Augustin ne prêche plus les derniers chapitres, hein, et ça va beaucoup plus vite, et dans certains cas, il y a des choses qu'il laisse tomber, franchement. Hein. Bon, enfin, en tout cas, il faudra attendre l'époque carolingienne pour avoir un second commentaire, c'est-à-dire celui d'Alcuin, qui d'ailleurs est très dépendant d'Augustin. De nombreux passages de l'évangile de Jean étaient cependant lus depuis longtemps, hein, voire cités et commentés. Hein. Et c'est aux usages de Jean 21, en dehors du commentaire d'Augustin et des commentaires au sens strict, qu'est consacré cette étude. J'ai dû aller à la pêche, bien évidemment. La mienne a été moins miraculeuse que celle de Jean 21 pour un certain nombre d'auteurs. Je vais prendre tout bêtement le texte, hein, du début jusqu'à la fin. Il y a deux parties essentiellement. C'est d'abord l'apparition du lac de Tibériade et la seconde pêche. Et deuxièmement, le nouvel appel, si l'on peut dire, de Pierre et de Jean. Donc, dans la première partie, l'apparition du lac de Tibériade. Pierre Chrysologue, qui est évêque de Ravenne à la moitié du 5e siècle, avait en fait commenté la péricope dans son ensemble, en 2 homélies, mais hélas, seule la première, qui traite des versets 4 à 8, est conservée. En dehors de l'œuvre d'Augustin, le seul commentaire complet que l'on possède du chapitre, c'est une homélie de Grégoire le Grand, qui a été prononcée, ça c'est très précis, le 19 avril 591, le jeudi de Pâques, dans la basilique de Saint-Laurent, hors les murs. C'est l'avantage avec Grégoire, on a des précisions, c'est l'avantage d'être évêque de Rome. Tout d'abord, c'est Pierre Chrysologue et Grégoire, mais enfin surtout Pierre, s'intéressent au cadre du récit et à sa signification. Peut-être parce que justement c'est un commentaire qui est censé être suivi, alors que pour le reste j'ai des petits morceaux de droite et de gauche. Le récit de Jean 21, 4, 14 commence par une formule qui est répétée 2 fois dans le même verset, dans le verset 1, j'ai dit 4, 14, enfin 1, 14. Jésus se manifesta 2 fois. Pierre Chrysologue ne la commente pas expressément, mais il est évident qu'il comprend le passage comme une épiphanie. Avant de commenter la pêche elle-même, il accorde une grande importance au cadre du récit. C'est-à-dire Jésus apparaît debout sur le rivage du lac de Tibériade au petit matin. Jusque-là, les disciples partis pêcher avec Pierre étaient dans la nuit. Puisqu'on est au petit matin, c'est la déduction logique. Hein. Cette nuit figure les ténèbres dans lesquelles avaient été plongés les disciples par la passion du Seigneur. C'est évidemment le commentaire de Pierre. Après, je le cite, « Après la passion du Seigneur, tempête inconnue de la terre qui fit trembler les cieux, tempête inouïe dans les siècles et insupportable aux enfers, le Seigneur vint vers la mer et y trouva les disciples ballottés par les flots dans les ténèbres de la nuit. » Il continue, je saute un peu hein, parce que c'est long. « Une fois leur soleil disparu, ce n'était que sombre et confuse obscurité qui enténébrait non seulement les yeux de leur corps, mais aussi le regard de l'esprit et les rendait incapables de naviguer pour gagner ou regagner le rivage de la foi et le port du salut. » Donc, il s'agit bien d'une nuit symbolique, d'une nuit qui symbolise l'état d'esprit des apôtres. Cette nuit a aussi une portée cosmique. C'est la même nuit qui, enfin c'est une nuit analogue, à celle qui, selon l'évangile de Matthieu, en 27-45, s'est répandue sur toute la terre à la mort de Jésus et qui manifestait l'effroi de la création, parce que le soleil refusait de voir le crime commis contre son créateur. Je cite, « Ses fondements se dérobant, la terre a tremblé, le soleil a fui pour ne pas voir, le jour s'en est allé pour n'être pas témoin. » Et dans son élan, le prédicateur fait appel aux autres notations de l'ébranlement du monde qu'il trouve dans le récit de Matthieu, au verset 51-53, et il les enrichit de sa propre vision des choses. « La terre tremble, car elle craint d'être condamnée à retourner au chaos initial. Les enfers vaincus laissent sortir les morts, premiers témoins de la résurrection promise aux hommes. » Je cite, « Les âmes rendues à leur corps annoncèrent aux vivants qu'ils ressusciteraient ces morts que le monde avait cru disparus à jamais. » Plus prosaïquement, mais par un rappel du droit romain qui devait être parlant pour ses auditeurs, l'évêque assimile la terreur du monde créée à celle qui frappe la maisonnée dont un esclave a assassiné le maître. Je cite, « Le monde s'efforça de fuir sa responsabilité dans le meurtre de son maître, sachant que le châtiment attendait toute la maison dans laquelle le maître avait été tué par le crime de ses serviteurs. » Donc le sermon commence par une longue scène dramatique à laquelle l'évêque va ajouter même le son, celui du fracas des rochers qui se fendent, auquel se joignent les hurlements de l'enfer contraints de lâcher ses proies. Dans un premier temps, je vous avoue que j'avais lu ça d'un œil un peu distrait, en me disant encore de la rhétorique, voilà un son et lumière sur le lac de Tibériade, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus intéressant que ça, parce qu'il y a vraiment vu une épiphanie, ou une théophanie, si vous préférez. La lumière de la résurrection, donc, chasse la peur des ténèbres et de la confusion primordiale quand le Christ apparaît debout au matin sur le rivage. Je cite, « Alors que cette confusion de l'ordre du monde bouleversait l'univers entier, qui se croyait précipité dans les ténèbres primordiales et l'antique chaos, le Seigneur, subitement, restaura le jour par la lumière de sa résurrection. » Petit matin. Comme la nuit, cette vision du Seigneur au matin concerne à la fois le cosmos et les hommes. Le rivage, c'est la limite de la mer, mais cela rappelle aussi la séparation des éléments lors de la création, et la station debout de Jésus signifie la stabilité rendue au monde. Ainsi, Jésus apparaît à ses disciples dans l'aube d'une nouvelle création. Des disciples, Jean a seulement dit qu'il n'avait pris aucun poisson de la nuit. Pourquoi ? Sinon parce que les eaux étaient houleuses, du moins c'est ainsi que comprend notre auteur. La mémoire tend spontanément à associer tous les épisodes qui se déroulent sur le lac, on l'a déjà vu. Non seulement la pêche miraculeuse de Luc 5, 4, 11 et celle de Jean 21, 6, mais aussi l'épisode de la tempête apaisée raconté par les synoptiques et par Jean. Les apôtres, dit Pierre Chrysologue, étaient ballottés par les flots, ce qui figurait leurs doutes et leurs incertitudes. Mais Jésus les appelle depuis le rivage à le rejoindre, dans une foi désormais immuable, ad fidam sui stationem, pour être avec lui, comme lui, dans une station droite, debout. Le Seigneur les interpelle en des termes qui allient la tendresse au reproche, puisqu'il leur dit « les enfants », verset 5. « Enfants », dit Jean Chrysologue, Pierre Chrysologue, car il leur a manqué la force de la foi. Au lieu d'être de courageux soldats du Christ, ils se sont comportés comme des enfants apeurés. Il y avait là, je cite, Pierre qui avait renié, Thomas qui avait douté et Jean qui s'était enfui. Oh, Jean s'était enfui. Et c'est parce qu'en fait, Pierre Chrysologue partage avec Ambroise et d'autres pères l'idée que le jeune homme qui, dans l'évangile de Marc 14, 51, 52, s'est échappé lors de l'arrestation de Jésus en laissant son drap, syndone, dans les mains des poursuivants, n'était autre que Jean. Donc, dans ce début, l'évêque de Ravenne lit la manifestation de la divinité du Christ ressuscité, créateur du monde et père de son Église. C'est donc un texte qui, en fait, est très riche, même s'il est quand même très rhétorique. C'est quand même long, il faut bien dire la vérité. Je vous signale, par hasard, il y a une traduction dans un des volumes de Père dans la foi. Bien, si je passe maintenant à Grégoire le Grand, la vision est différente. La mise en scène grandiose de l'apparition du Christ n'a pas de correspondant. L'évêque de Rome successeur de Pierre, qui vit à une époque troublée et difficile. Il ne faut pas oublier que c'était lui qui était obligé d'assurer la nonne de la ville et d'autres choses encore à Rome à cette époque troublée. Il estime plus nécessaire de commencer son homélie en excusant l'apôtre de reprendre son métier de pêcheur. C'est un métier autorisé, c'est pas un métier interdit. Et puis les métiers, c'est quand même bien utile. Grégoire ne laisse quand même pas passer la vision de Jésus debout sur le rivage sans la commenter. Selon l'interprétation archi-courante chez les pères, la mer figure le monde et son agitation. Que désigne la mer, dit Grégoire, sinon le monde présent, agité par le mouvement des affaires et la houle d'une vie corruptible. Jésus se fait voir aux disciples, mais il appartient déjà au monde de demain. Je cite, « Alors que les disciples, qui étaient encore au milieu des flots de la vie mortelle, peinaient sur la mer, notre Rédempteur, qui avait déjà dépassé la condition d'une chair corruptible, se tenait debout sur le rivage après sa résurrection. » À la différence des récits de tempêtes apaisées qui prennent place avant la résurrection et manifestent la proximité physique de Jésus à ses disciples, le récit de Jean, selon Grégoire, veut signifier un mode de présence nouveau du Christ aux hommes. Je le cite encore, « C'est comme si le Christ disait à ses disciples sur le mystère de sa résurrection, « Je ne vous apparais plus sur la mer, car je ne suis plus au milieu de vous sur les flots déchaînés. » Ils naviguent encore, mais lui se montre à eux sur le rivage. Que désigne la stabilité du rivage, dit-il, sinon la perpétuité du repos éternel. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose que chez Pierre Chrysologue. La visée du pape Grégoire est la vision est plus eschatologique. La pêche ultime. L'interprétation classique de la pêche est toujours à l'arrière-plan des commentaires de la péricope chez les auteurs anciens. Le pseudo-Théophile, qui est un auteur anonyme, dont on ne sait pas trop s'il vivait en Italie ou en Gaule, on le place tantôt au 5e, tantôt entre le 6e et le 7e siècle, il résume les choses, toujours très brièvement, de la façon suivante. Il faut savoir que la mer désigne le siècle, que l'évangéliste désigne par le navire l'Église et par les pêcheurs les apôtres. Cédulius, qui est un poète du début du 5e siècle, dans son Pascaleopus, ajoute que les filets représentent les commandements de Dieu, ce qui là aussi est une interprétation assez courante. Ambroise, de Milan, rappelle que dans cette pêche d'un genre inédit, le poisson, cette fois, n'a pas à craindre le filet du pêcheur, car au lieu d'aller à la mort, il va vers la vie. Tout cela, c'est une symbolique très courante dans l'Antiquité, rien de très original. En Jean 21,6, Jésus donne un ordre qui peut étonner. Il faut jeter les filets sur la droite. Le détail est compris en fonction du sens que l'on attribue généralement à la symbolique de la gauche et de la droite. Qui ne sait, dit Grégoire, que la droite désigne les bons et la gauche les méchants. Cédulius dit, les poissons pris à droite, ce sont les hommes qui se sont attachés à la voie droite. Pierre Chrysologue, lui, s'intéresse moins aux poissons qu'aux apôtres. Leur attitude lors de la passion, c'est leur attitude lors de la passion qui risquait de les mettre au nombre des boucs, donc à gauche, plutôt qu'à droite, là où le Seigneur placera les justes lors du jugement, d'après Matthieu 25, 33. Mais, dit-il, le Seigneur ramène à droite ce que la tourmente de la passion avait emporté et poussé à gauche. Et ce faisant, il les fait passer de la faiblesse enfantine, dont il a parlé tout à l'heure, à l'âge adulte. Grégoire le Grand est le seul, parce qu'il s'inspire d'Augustin, à opposer la pêche relatée par Jean à celle de Luc au chapitre 5, 4 à 7. Dans la pêche de Luc, si vous vous souvenez, le filet ramasse des poissons, tant à gauche qu'à droite, on ne précise pas. Cela en figure du caractère mêlé de l'Église d'ici-bas. Mais, je cite Grégoire, mais c'est de l'Augustin revu, lors de la pêche qui a lieu après la résurrection du Seigneur, le filet est lancé à droite seulement, car seule l'Église des élus arrive à voir la splendeur de sa gloire et arrive au rivage qui est qui marque la fin des temps. Suivant toujours Augustin, Grégoire oppose au filet de la première pêche, dont les déchirures sont provoquées par la masse des poissons, ces déchirures qui figurent les divisions de la doctrine par les hérésies. Il oppose au filet de l'Église des élus qui, reposant dans la paix continuelle de son fondateur, n'est plus déchirée par aucune dissension. Les autres auteurs ne commentent que l'abondance de la pêche, Cédulus disant que les filets étaient pleins à craquer, tout simplement, Et pour Pierre Chrysologue, c'est le poids du filet qu'ils ont du mal à tirer qui fait comprendre aux apôtres qu'à l'origine de cette pêche exceptionnelle, il y a non pas leurs compétences professionnelles, mais la parole du Seigneur. Mais pourquoi Jean dit-il qu'on a dénombré 153 poissons ? Une pareille précision ne pouvait qu'attirer la curiosité et à y chercher un sens symbolique. Jérôme s'est reporté à des traités d'halieutique et particulièrement à un poème sur la pêche composé au IIIe siècle en Asie mineure par un certain Oppianus. C'est lui qui le dit, on n'aurait pas trouvé. Selon cet auteur, les espèces de poissons seraient au nombre de 153. Toutes, dit-il, ont été capturées par les apôtres. Et il n'est rien resté qui ne le fût. Nobles et obscurs, riches et pauvres, tout le genre humain est tiré de la mer de ce monde pour le salut. Donc les 153, c'est l'ensemble des poissons et donc ça figure l'ensemble des élus. Pour le pseudo-théophile, les 153 poissons figurent les spirituels qui ont observé le décalogue grâce au don de l'esprit. 10 plus 7 et la progression arithmétique de 17 fait que vous arrivez à 153. Bon, ça, c'est, si vous avez bien lu Augustin, c'est dit je ne sais combien de fois chez Augustin, qui lui déjà ne l'avait pas inventé, si je me souviens bien. Je ne sais plus très bien, mais enfin bon, c'était chez Augustin, il y a au moins 3 explications différentes de ce chiffre, et ça l'intéresse beaucoup, il s'intéresse à ça. Bon, Grégoire le Grand s'inspire lui aussi d'Augustin, il parle lui aussi du chiffre 17, avec la même signification, mais il va se servir du chiffre 51, c'est-à-dire 50, symbole, c'est l'année jubilaire quand le peuple se repose de son activité, mais le vrai repos ne peut exister que dans l'unité, donc 50 plus 1, ça y est, on y est, 51 que multiplie 3. Et ben ça y est, on y est, 153. Et donc, les 153 poissons figurent les élus citoyens de la patrie d'en haut. Les prédicateurs se sont aussi intéressés au rôle attribué aux apôtres Pierre et Paul Pierre et Jean dans l'épisode. Ambroise se concentre sur Pierre, qui, dès que Jean lui a fait comprendre que c'était Jésus qui se tenait sur le rivage, se jette à l'eau pour aller le retrouver. Il y voit la marque du zèle de l'apôtre, l'impatience de son désir qui lui fait négliger le danger. Partout, dit-il, il est soit seul, soit le premier. Et il donne d'autres exemples où Pierre est aussi de la même façon le premier. Pierre Chrysologue préfère de son côté souligner le rôle de Jean. Il a reconnu le premier le Seigneur à cause de l'amour qui le liait à lui. Car, dit-il, l'œil de l'amour a toujours une acuité plus grande et celui qui est aimé a toujours une sensibilité plus vive. L'esprit de Pierre, en fait, était ralenti. Il était plus lent à voir le Christ en raison de son reniement. Commentaire de Pierre Chrysologue. Mais il ajoute, Pierre se jette à l'eau pour que la mer purifiât la souillure de son reniement. Il se jeta à la mer pour être le premier à revenir, lui qui avait reçu le primat dans l'ordre ecclésial. Donc, il a une raison de se jeter à l'eau. Grégoire, lui, n'établit pas d'opposition entre le comportement des deux apôtres, mais il fait remarquer, il ne faudrait quand même pas oublier, qu'en fin de compte, c'est quand même Pierre qui tire le filet. C'est parce que c'est à lui qu'a été confiée l'Église, et c'est sa prédication qui enlève les fidèles au flot du monde pour les mener au rivage de la patrie éternelle. On n'est pas évêque de Rome pour rien. Pierre Chrysologue a cherché à expliquer quant à lui un détail qui nous intrigue toujours. Pourquoi Pierre met-il donc son vêtement avant de se jeter dans l'eau ? Nous faisons plutôt le contraire. Eh bien, Ambroise dira, c'est un signe de son respect pour le Seigneur. Il dit ça en vitesse et il ne commente pas longuement. L'évêque de Ravenne, lui, songe à un autre personnage qui couvre sa nudité, c'est Adam. Et je cite, « Le reniement a dénudé Pierre, mais celui qui était nu dans le bateau s'est plongé habillé dans l'eau, parce que la faute recourt toujours à quelques voiles, alors que l'innocence ne rougit jamais d'être nue. Donc, tout comme Adam, Pierre, après sa faute, est désireux de couvrir sa nudité, alors qu'avant la faute, tous deux étaient revêtus d'une sainte nudité. Bon. » Après cela, pique-nique au bord du lac. « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Fortunatien d'Aquilée s'intéresse aussi. Fortunatien d'Aquilée, c'est un évêque d'Aquilée de la mi-IVe siècle, dont notre collègue Dorfbauer a retrouvé, par miracle, mais presque, ces dernières années, le commentaire des évangiles qui était perdu. Et Fortunatien se réfère à 1 Corinthiens 14:20, et explique que dans les Écritures, on trouve deux genres d'enfants. Ceux qui sont enfants par le jugement, ceux qui le sont par la malice. Et on comprend que tous ceux qui étaient sans malice sont appelés enfants. Et voilà pourquoi on va parler ici, pourquoi Jésus va les appeler enfants. Bon, ça a été repris par d'autres pères, je laisse tomber. Pierre Chrysologue accorde à la question de Jésus, à une question de Jésus, à un sens spirituel, quelle nourriture avez-vous à manger? Qu'avez-vous à manger? Où avez-vous à manger? Quelle nourriture pouvait-il avoir, comment-il, eux qui n'avaient pas le Christ, pourtant si proche d'eux, et qui ne voyaient pas encore de leurs yeux le Seigneur debout face à eux? Les disciples n'avaient pas compris que c'était Jésus. Jésus leur pose la question, dit-il, parce que la bonté voulait les ramener à la grâce, le pain à la confiance, ce qu'on mange avec le pain, le pulmentarium, ce qu'on met au-dessus, à la foi. Le Christ demande à manger pour lui aussi, car il ne pouvait croire que son corps était ressuscité s'il ne le voyait manger à la façon des hommes. Celui qui rassasie toute demande de la nourriture, celui qui est le pain, mange, car il a faim, non de nourriture, mais de l'amour des siens. Le thème est souvent traité par les pères depuis Tertullien, mais c'est en général à propos de l'apparition aux apôtres en Luc 24, 41-43, d'autant qu'ici, il n'est pas dit du tout que Jésus mange. Il leur fait à manger, il leur donne à manger, mais on ne dit pas qu'il mange. Le repas que Jésus offre à ses disciples reçoit une signification sacramentelle chez le poète Sédulius. Ce repas de pain et de poisson est une image de la table du Seigneur, nous dit-il. Ils ne sont pas là pour rien, ni les poissons, ni les braises, ni le pain, que les disciples trouvèrent en un seul et même lieu. Le poisson évoque le baptême. Il paraît indiquer l'eau dont il est certain que nous sommes lavés pour renaître, dit-il. Le pain renvoie évidemment à l'Eucharistie. Il signifie le Christ Sauveur dont le corps nous nourrit pour notre salut. Et le feu qui grille le poisson porte l'image du Saint-Esprit par lequel nous sommes voués et consacrés à la foi. Tout ça, c'est évidemment, vous imaginez avec le style que c'est évidemment pas de moi, mais de Sédulius. Chez Grégoire le Grand, cet ultime repas du Seigneur avec ses disciples est plutôt l'image du banquet éternel. D'un côté, vous avez le banquet ecclésial aujourd'hui. L'image du banquet éternel, ceci en raison notamment de la symbolique du nombre 7, car il fait remarquer que l'évangéliste Jean a nommé 7 apôtres au début du chapitre, au verset 2. Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Pourquoi prend-il ce dernier repas avec 7 disciples, dit-il, sinon pour signifier que ceux-là seuls qui sont remplis de la grâce de l'Esprit-Saint aux 7 dons seront avec lui au repas éternel. De plus, la totalité du temps se déroule en 7 jours et le nombre 7 désigne souvent la perfection. Là, il semble qu'il ait raccroché un petit passage d'Augustin, parce que c'est plutôt ça qu'Augustin met en relief ici. Chez Grégoire, c'est plutôt ici l'annonce du banquet des noces de l'agneau d'Apocalypse 19, 9, d'après ce qu'il dit. Au pain et au poisson, Grégoire ajoute lui aussi le miel, par une identification spontanée ou consciente du repas ultime de l'évangile de Jean avec celui de Luc, où le miel est présent dans plusieurs manuscrits, Mathieu Cassin nous l'a dit ce matin. Un aussi bon exégète que Jérôme atteste plusieurs fois cette association. Donc il le sait, parce que Jérôme, il connaît bien ces textes. Pierre, dit-il, c'est Jérôme, Pierre a vu le Seigneur se tenant debout sur le rivage et mangeant un rayon de miel et une part de poisson. Ah, il a de l'imagination, parce que on n'a pas vu Jésus manger, on n'a pas vu de miel, et là, Jésus mange tout. Bon. L'affirmation que Jésus mange est également suggérée par Pierre Chrysologue et prouve bien la contamination avec le texte de Luc. Grégoire le Grand, lui, distingue bien les deux récits, c'est clair, parce qu'en fait, il a fait 2 homélies différentes, 2 jours consécutifs, sur les 2 textes. Mais il note quand même que le poisson rôti est présent des 2 côtés, mais le miel disparaît. Le poisson rôti évoque le Christ dans les souffrances de la Passion. Que désigne, dit Grégoire, le poisson rôti, sinon le médiateur de Dieu et des hommes, lui-même, qui a souffert? Bon, c'est de l'Augustin, Piscis assus Christus passus, c'est les formules augustiniennes. Pierre Chrysologue n'ignore pas l'interprétation, mais il en fait usage en fait dans un autre sermon en disant que le poisson, c'était le Christ remonté du lit du Jourdain qui plaçait sur les braises des souffrances après sa résurrection, offrit aux siens, c'est-à-dire aux disciples, la nourriture de vie. L'interprétation de Grégoire est analogue. Il a voulu être pris par le filet de notre mort. Et il a été, pour ainsi dire, rôti par le feu de l'épreuve au moment de sa passion. Donc, le poisson symbolise la nature humaine du Seigneur et le pain mangé avec le poisson renvoie pour Grégoire à la nature divine. Celui qui, du fait de son humanité, a pu être rôti comme un poisson, refait nos forces avec le pain de sa divinité, puisqu'il dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Le rayon de miel, nous y voilà quand même, évoque les deux natures du Christ. Un rayon du miel, de miel, c'est du miel dans la cire. C'est plutôt chez Aucassin qu'on trouve ça aussi, hein, mais à propos de l'écriture. Bon. Et c'est la divinité dans l'humanité. Ça permet à Grégoire d'ajouter ici une note eschatologique. Le miel est pris avec le poisson, car ceux qui ici-bas acceptent d'être affligés pour la vérité seront rassasiés là-haut de la douceur véritable. Comme Jérôme, Grégoire pense que Jésus a pris le dernier repas avec les disciples, mais pour leur apprendre à l'imiter et à s'unir à lui. Je le cite, « Notre Seigneur a voulu joindre pour son repas le poisson rôti et le miel, car il accueille en son corps, pour le repos éternel, ceux qui, lorsqu'ils subissent des épreuves pour Dieu, ne renoncent pas à aimer la douceur intérieure. » Donc il y a à la fois le poisson, la souffrance, et puis le miel. Bon, dis-moi, parce que je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé.
2h30.
D'accord. Bon, je vais abréger pour la fin, c'est pas grave. Bon. Donc, à propos de la vocation de Pierre et de Jean, bon, c'est pas grave parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a de moins original. Là, Pierre, m'aimes-tu, hein, les textes, Hilaire, Ambroise, etc., mais surtout Hilaire et Ambroise, soulignent que ces textes marquent la place essentielle de l'amour. Pierre est choisi pour gouverner l'Église, dit Ambroise, en raison de sa nimia caritas, de son amour sans mesure. Et il est, c'est toujours de l'Ambroise, il est à la fois celui qui doit manifester aux hommes l'amour du Christ et celui qui représente l'amour de l'Église pour le Christ, des deux côtés. La triple confession d'amour et le triple reniement, on est habitué à lire ça chez Augustin, il y a de très beaux textes. Ça n'est pas de l'invention d'Augustin, ça se trouve déjà chez Ambroise, qui lui dit lui-même qu'il le tire de quelqu'un d'autre. Et de fait, on le trouve chez Cyrille de Jérusalem, et Cyrille lui-même n'a pas dû l'inventer, parce qu'en fait on voit ça chez Épiphane de Salamine, chez Grégoire de Nice, très probablement, il y a une tradition dont l'origine nous échappe. C'est pas de l'origine, en tout cas pas dans l'origine qui nous est restée. Le plus intéressant chez Ambroise, c'est que le dialogue entre Jésus et Pierre au bord du lac de Tibériade évoque pour lui le dialogue qui s'instaure entre le baptisant, enfin celui qui va être baptisé, et l'évêque. Il y a une triple question et une triple immersion pour détruire les chutes répétées du passé, donc le triple reniement. Il y a un très beau texte dans le De Sacramentis, qui est peut-être d'Ambroise ou peut-être d'un successeur d'Ambroise. Les savants en discutent encore. Paix mes brebis, eh bien, c'est parce que justement, il a appris l'humilité, il a appris beaucoup de choses par son reniement, que Pierre est capable désormais de prêcher le Christ et d'être responsable du troupeau. Plusieurs pères insistent sur ce thème, qui, ça n'est pas original, on retrouve un petit peu partout. Léon le Grand, toutefois, rappelle que le seul véritable pasteur, c'est le Christ, hein, je le cite. « Bien qu'il ait dit au bienheureux Pierre, principalement, paix mes brebis, c'est lui seul, le Seigneur, qui exerce l'office de tous les pasteurs. » Alors, les brebis sont évidemment la figure des croyants. L'annonce du sort de Pierre et Jean, eh bien, là, j'étais intéressée par ce que disait Catherine à propos du martyr, hein, à propos du martyr de Pierre. Hein, tu étendras les mains quand tu seras vieux. Hein, est-ce une allusion à la crucifixion de Pierre, la tête en bas, qu'on a effectivement dans les apocryphes, etc. En réalité, on l'a dans une hymne ambrosienne, mais qui n'est très probablement pas authentique, et dans un sermon de Chromas d'Aquilée qui n'est probablement pas authentique non plus. Autrement dit, fin 4e siècle, début 5e siècle, ça n'est pas encore habituel de faire le lien entre cette phrase de Jean, tu étendras les mains, et la crucifixion, même si par ailleurs on connaît le thème, Ambroise le connaît, etc. C'est connu depuis les actes, au moins les actes de Pierre, dont l'origine est ancienne. Bon, pour faire bref, eh bien, je vais presque finir. Donc, La question, c'est aussi que veut dire ce que Jésus dit à Jean, hein, ou répond à Pierre, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, hein, et sur la rumeur qui courut du fait qu'il ne mourrait pas. Faux espoir, commentent évidemment Tertullien et Hilaire, qui savent bien qu'il est mort. Ambroise dit, mais c'est qu'on n'avait rien compris, ce n'était pas la mort du corps, mais celle de l'âme qui était exclue ici, hein, et au-delà de Jean, Jésus visait tous les croyants car, dit-il, leur vie ne connaît pas d'interruption lors de la mort corporelle. Chromas d'Aquilée comprend que la phrase « Je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne » atteste que le Seigneur vient trouver chacun des siens lorsqu'ils sortent de leur corps. Et lui dit « Le Seigneur n'avait pas parlé ainsi pour signifier que Jean ne mourrait pas, mais parce qu'il devait mourir sans douleur. » Et à ce moment-là, il rapporte le récit de la mort de l'apôtre qu'on a dans les actes de Jean, où Jean demande qu'on lui creuse une fosse, s'étend dedans et reçoit sans souffrance le sommeil des bienheureux, pour citer le texte. Bien, vous voyez donc le sort des deux parties du texte a été très, très différent, hein, et aussi du coup le sort de mon exposé, puisque j'ai galopé dans la deuxième partie. Dès le IIIe siècle, là où il est dit que les évêques sont appelés à faire paître le saint troupeau du Christ, ce qui est très probablement une allusion aux versets 15 et 17, le texte est en lien avec la consécration épiscopale. Et de fait, Césaire d'Arles atteste que le texte est lu au VIe siècle, mais enfin, ça devait être antérieur, lors des ordinations épiscopales. Donc, on fait allusion très fréquemment au récit de Jean 21, 15, 19, presque à chaque fois qu'on parle de Pierre, mais on le commente finalement très peu en dehors de l'œuvre d'Augustin, où on a bien 27 textes différents qui expliquent ce texte. En revanche, si l'on n'avait pas les deux sermons de Pierre Chrysologue et de Grégoire le Grand, qui appliquent les versets 1 à 14, l'un à la vie présente de l'Église et l'autre à la fin des temps, on n'aurait presque aucun commentaire de ces versets, en dehors de tout ce qu'Augustin dit des deux pêches, hein, de la pêche miraculeuse. Et Grégoire s'inspire largement d'Augustin, mais non pas l'évêque de Ravenne, qui ne les connaît visiblement pas. Mi-5e siècle, les contacts entre l'Afrique et l'Italie du Nord ne sont plus ce qu'ils étaient. Il ne faut pas oublier que l'Italie du Nord est en proie à différentes vagues d'invasion. Et donc, il ne le connaît pas, ça c'est évident, hein, d'après le contexte. Voilà, je vous remercie.